On va parler d'une chose aujourd'hui qui est à voir avec Hanouka de façon tout à fait légère, mais c'est un sujet important en soi. Les souvganiyot, c'est-à-dire les beignets. Il y a une mitzvah, une coutume de manger des beignets parce que le miracle a lieu avec de l'huile et donc on va faire des gâteaux qui trempent dans l'huile. La question est, même ici en Israël, comment les beignets sont faits? Il y a une casserole d'huile bouillante dans laquelle on fait tomber des morceaux de pâte. Et c'est cuit comme ça. Maintenant, qui fait tomber les morceaux de pâte? Qui prend les morceaux de pâte et les met dans la casserole? Alors, dans certaines fabriques de beignets, ce sont des non-juifs. Et il y a un grand piège ici. Pourquoi? Parce que, à propos du pain et des gâteaux, une certaine autorisation à manger des pains et gâteaux qui ont été faits par des non-juifs s'ils sont cachers. Mais des choses frites, c'est un problème. Un problème qu'on appelle bishul goyim. C'est bishul goyim. Chaque plat qui ne peut pas se manger cru. Par exemple, des patates. Par exemple, des pâtes, des spaghettis. Par exemple, de la viande, pardon. Des frites, des patates, des pommes de terre. Par exemple, des beignets. D'accord? Bien qu'ils soient complètement... Pardon ?
Ça se mange, ça n'a pas de cru.
Alors, quand je dis que ça se mange, ça veut dire que la majorité des êtres humains normaux ne mangent pas. Dans notre société, non. La viande crue, par exemple. Il y a des gens qui mangent du steak tartare, mais c'est très rare. Il y a une grande discussion aujourd'hui, je vois, entre les décisionnaires à propos du poisson cru. Et
aujourd'hui, c'est très courant, ça.
Moi, depuis que je suis petit, à l'âge de mon père, dès que j'étais très petit, il partait en Extrême-Orient. Depuis que je suis petit, on mangeait du poisson cru chez nous. D'ailleurs, très souvent, il amenait des gens, des invités, ils cuisinaient, leur donnaient un peu comme ça. Ils ne savaient pas ce que c'était très bon, ils leur disaient que c'était du poisson cru, ils allaient vomir. Les gens ne savaient pas ce que c'était du sushi. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs tout à fait. Mais dans le monde orthodoxe en Israël, c'est marrant, parce qu'une fois je suis allé voir un grand décisionnaire qui était très proche de Rabbi Yachiv, d'accord, et il y a quelqu'un qui rentre et pose une question, et il dit, voilà, pour du sushi. Il dit, beaucoup de gens mangent du poisson cru. Il fait comme ça. C'est clair qu'il y a un problème, il parle de moukhtse, est-ce qu'on peut, Shabbat, bouger du poisson cru? Est-ce que c'est moukhtse ou pas? Alors, bien sûr que c'est moukhtse, c'est comme une pierre, personne ne mange cette chose-là. Il dit, c'est très répandu. Il dit, non, c'est pas... Donc, on voit que c'est pas encore rentré dans les mœurs de tout le monde que de manger du poisson cru, c'est une chose qu'on peut faire. Donc, laissons le poisson cru de côté, ça c'est une discussion. À mon avis, il n'y a pas de problème, le poisson se mange cru, en tout cas pas tous les poissons, on va dire le saumon... Le thon, d'accord, se mange cru. D'autres poissons chez nous, on mangeait tous les poissons crus, la dorade, tout, mais bon, ça, c'est pas encore entré trop dans les mœurs. On va dire poisson et thon cru, on peut le manger, ça se mange cru. Mais d'autres poissons, comme la dorade par exemple, ou comme je dis la viande, etc., toutes ces choses-là qui ne peuvent pas se manger crues, si elles sont cuites par un goy, elles sont interdites à la consommation, bien qu'elles soient totalement cachères. C'est totalement cachère, c'est fait dans des ustensiles cachères, il n'y a aucun problème. Par le simple fait que c'est cuit par un non-juif, c'est interdit à la consommation. Quelle est la raison de cela? Deux raisons ont été évoquées dans les Rishonim. La première, c'est de peur qu'on se marie. Ça veut dire que si maintenant le voisin, M. Dupont, m'invite chez lui, il a une fille très sympathique, Christine Dupont, elle est jolie, elle a mon âge, j'ai son âge, on va manger chez lui, on discute un peu, et qu'elle soit dans la vie, et on mange, et on boit, etc. C'est marqué « Gdola legima shemekarev » être grande est le fait de manger ensemble que ça rapproche les gens, d'accord? C'est clair que aussi dans le business, aussi dans les séminaires, lorsqu'on voulait rapprocher les gens de la Torah, le fait de manger ensemble, ça change tout. Ça rapproche les cœurs. Chazal ne sont pas intéressés à ce que le peuple d'Israël s'assimile, qu'il y ait des mariages inter-ethniques, d'accord? Am Israël doit se marier entre juifs. Donc, ils ont interdit de consommer une nourriture cuite par un non-juif, si on ne peut pas la manger crue. Si on peut la manger crue, il n'y a pas de problème. Vous direz, qu'est-ce que ça change maintenant avec Christine Dupont? C'est vrai, ça prouve qu'il y a des raisons beaucoup plus profondes à cela, que ça c'est une des raisons qui étaient données, mais extérieures, des raisons beaucoup plus profondes. Si la chose se mange crue, par exemple les carottes se mangent cuites comme crues, les tomates se mangent cuites comme crues, d'accord? Beaucoup de choses comme ça peuvent se manger crues ou cuites, Et dans cette mesure-là, il n'y a pas de problème à les manger, ils ont été cuits par un non-juif. La deuxième raison qui a été évoquée par les Rishonim est qu'on a peur qu'ils disent « ce juif-là, il me casse les pieds, allez, je lui fais maintenant un steak, je prends un steak chez moi à la maison, hop, il le met à la place, exprès pour m'embêter, il met, ou pas pour m'embêter. Dans une ville, je ne citerai pas le nom, je peux pas dire. Dans une ville, bon bref, dans une certaine ville, il y avait un restaurant cachère avec un hercher, un grand rabbin, très sérieux, tout ce qu'il faut bien. Et on a su qu'un soir, des gens sont venus manger, et le cuistot là-bas, il n'avait pas assez de steak. Bon, c'était un non-juif, lui, il se pose pas de questions. Tu allais voir son copain de cuisinier de la boîte en face, d'accord, écoute, j'ai des clients, tu n'auras pas 4 steaks, ouais, tiens, je te les donne. Non, mais il aura fait, il en a mangé, des steaks Taref, la méadrine, d'accord. Dans le même restaurant aussi, il y avait un cuistot qui est venu travailler chez des gens que je connaisse comme ça, des proches de ma famille, qui ont raconté qu'un jour il n'était pas content, il leur a fait à manger dans la gamelle de son chien. Donc il y a des choses aussi qui arrivent de ce genre-là. Chazal ont eu peur que si je mange maintenant une nourriture, bien qu'elle soit, elle est censée être cachère, mais qui est cuisinée par un non-juif, peut-être qu'il a inséré là-bas une chose qui n'est pas cachère, donc on a interdit, bien que ce soit cachère, c'était cuisiné de même devant moi, il n'y a aucun problème. Donc de quoi on parle? On parle de choses cuites à l'eau ou au four, mais pas du pain. Tout ce qui est pâte, le pain et le gâteau, ils ont allégé la loi. Pourquoi? Parce que, du point de vue de la Torah elle-même, la Torah écrite, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a aucune interdiction. C'est une des seules lois des Rabbanan qui n'a pas de source dans la Torah. Toute loi des Rabbanan que nous avons, par exemple, ne pas cuire du poulet et du lait ensemble, ça provient de l'interdiction. C'est une extension de l'interdiction de manger de la viande, de bouillir de la viande et du lait ensemble. Donc il y a dans l'interdit Rabbanan, il y a déjà une source dans la Torah. Je ne sais pas, moi, par exemple, la majorité des interdits des Rabbanan que nous avons ont une source dans la Torah. Là, il n'y a aucune source dans la Torah. Nulle part, c'est marqué qu'il y a un problème de manger un plat qui est cuisiné par un non-juif. Il n'y a aucun problème à cela. C'est Chazal qui ont institué cela, et c'est une loi de la Torah, donc il y a pas, enfin, une loi de Chazal qui apparaît dans la Gemara, et dans Shulchan Aruch, etc. Vu que c'est une loi des Rabbanan, ils peuvent instituer ce qu'ils veulent. Ils ont dit, pour les choses qu'on peut instituer, on institue. Pour ce qu'on voit qu'on ne peut pas instituer, ça va être trop dur, on ne va pas instituer. Qu'est-ce qui est trop dur? Le pain. Ils savaient que durant l'histoire, le peuple d'Israël sera en exil, et pas partout, il y a un boulanger juif qui fait du pain. Et on ne peut pas dire aux gens, maintenant, on ne mange pas de pain. Le pain, c'est la nourriture basique occidentale, et même orientale, d'accord. On ne peut pas dire aux gens, tu manges du pain que si tu as un boulanger juif qui l'a fait. Pas tout le monde pouvait faire du pain chez lui, n'avait pas forcément un four à pain. Pas tout le monde, un boulanger qui habite près de chez lui. Donc du pain qui est cuisiné par un non-juif, il est permis à la consommation, si bien sûr il est cachère. Faire attention qu'il n'y a pas eu du mélange de graisse, de choses, etc., de choses non cachères. Mais c'est cachère, à condition qu'on ne peut pas avoir du pain juif. Si on peut avoir du pain juif, c'est-à-dire à 18 minutes à pied de l'endroit où on habite, on est obligé d'aller chercher le pain juif. Si c'est plus de 18 minutes, alors on peut se contenter d'un pain non-juif s'il est cachère. Et durant les 10 jours de pénitence, entre Shana et Kippour, même ce pain non-juif, il interdit la consommation parce que durant ces 10 jours, on veut monter un peu plus de niveau. Oui. Ouais, je suis en train d'établir la lentement, je suis en train d'expliquer. Ok. Maintenant, le piège, il est les soufganiyot, les beignets. Les beignets, étant donné que ce sont des gâteaux, ça ressemble à des gâteaux, les gens ne vont pas penser ça a été frit. Tout ce que j'ai dit maintenant, ce sont les pâtes de farine, d'accord, gâteau ou pain, qui ont été faits au four. Ça, Chazal a autorisé. Mais pas les choses qui ont été cuites dans de l'eau ou dans de l'huile. Là, déjà, c'est différent. Donc, l'interdiction de Mishugoïm a lieu aussi avec les beignets. Il faut faire attention à ça parce que les gens ne font pas attention. Ils se disent, c'est des beignets, il n'y a pas besoin de vérifier. Maintenant, la halakha est différente pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, si un juif est venu, par exemple, Motsé Shabbat, il a allumé le feu. Comme ça, en fait, dans la majorité des restaurants, il y a le Majikiar, il vient Motsé Shabbat, il allume une petite veilleuse à gaz, d'accord, tu as une petite flamme, et à partir de cette flamme, les cuistots vietnamiens ou hongrois vont allumer leur feu, et ça va, donc c'est une extension du feu. On ne dit pas que c'est le non-juif qui allume le feu, c'est le juif qui allume le feu. D'après le Réma, d'après l'Ashkenazim, si un feu a été allumé par un juif, le non-juif peut cuisiner dessus. Cette loi n'est pas valable pour les Sfaradim. C'est une des seules lois dans le Shulchan Aruch, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup, où les Sfaradim sont plus marmirim, sont plus sévères que les Ashkenazim. Pour le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, c'est absolument interdit, c'est taref, taref. Et nous étant Sfarad, ceux qui sont Sfarad doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit de manger un aliment qui a été cuisiné par un non-juif, bien que le feu ait été allumé par un juif.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus manger à Paris.
Je vais expliquer tout cela dans quelques minutes. La loi pour les Sfaradim est la suivante. Il faut que ce soit impérativement un juif qui ait mis le plat sur le feu. Ou un non-juif met le plat et c'est le juif qui allume, ou c'est le non-juif qui allume et c'est le juif qui met le plat sur le feu. Mais le contact feu et casserole doit avoir lieu par un juif. Effectivement, jusqu'à pas trop longtemps, tous les cadres religieux et les organismes de kashrout étaient ashkénazes. Dans cette mesure, ils ne tranchaient pas comme disaient les Sfaradim, mais comme disaient les Ashkenazim, et pour nous, ça, c'est un gros problème. Tu allais manger dans un restaurant, tu avais des barbes énormes avec des pelotes énormes qui mangeaient. Pour nous, c'était un rêve, complètement interdit à la consommation. Alors lentement, on est rentré, le monde Sfarad commence à rentrer. Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, à Paris, ça commence à rentrer, ils savent très bien. Tu vas voir, quand tu vas dans un restaurant, tu vas voir le mashgiar, tu lui dis, excuse-moi, tu dis au mashgiar, excusez-moi, je suis Sfarad. Ils comprennent tout de suite. Mais s'ils ne comprennent pas, tu lui dis, ouais, moi je suis Sfarad. Pour nous, le Shulchan Aruch ne peut pas se suffire du fait que le feu a été allumé par un non-juif déjà dès samedi soir. Il faut que vous-même qui mettez le plat sur le feu. Et il l'a fait. Il n'y a aucun problème. Maintenant, si jamais le goy a mis le plat sur le feu, ce n'est pas encore fichu. Tant que le plat n'est pas arrivé à un tiers de sa cuisson, si le juif vient, soulève et remet la marmite sur le feu, c'est valable. Ou bien même moins que cela, si jusqu'à un tiers de la cuisson, le juif vient et touille, donne un petit coup de cuillère comme ça dans le plat, ça suffit. Ça rend cachère déjà. Un tiers de la cuisson, c'est quoi ? On prend le temps total de cuisson qu'on divise par 3. Si c'est avant un tiers de cuisson, on considère que ce n'est pas encore cuit, et là, si le juif fait cette action-là que j'ai dite, alors ça règle tout le problème. Donc il faudra faire attention à cela. Dire, quand on va venir en Israël aussi, il y a ce problème-là, il faut bien vérifier. Par exemple, nous, quand on fait un mariage chez les Shiva, on va vérifier tout de suite qui sont les cuistots. Dans beaucoup de catering, de traiteurs, le cuistot, il n'est pas juif. C'est un problème. Il met sur le feu, etc. Pour nous, c'est interdit. Pour l'Ashkenazim, c'est permis parce que le feu a été allumé par un juif. Mais c'est pour nous tout à fait insuffisant. Faire attention à cela parce qu'on croit qu'on mange kasher, on ne mange pas kasher. Il y a deux coulottes possibles. Le Rav Yosef et le Rav Nissan Abba Shaul, chacun a une coula, a une autorisation spéciale, chacun différent que l'autre. D'accord ? Le Rav Nissan Abba Shaul, lui, il n'est absolument pas d'accord avec l'autorisation que donne le Rav Yosef, et vice-versa. Le Rav Yosef n'est absolument pas d'accord avec l'autorisation que donne le Rav Nissan Abba Shaul. Donc si on veut faire bien, on ne fait pas comme aucun des deux. Ou on se fait un Rav et on le suit. Le Rav Yosef va faire un Sfekseka. Qu'est-ce qu'un Sfekseka ? Il va faire... On peut... des fois autoriser une loi quand c'est un doute de doute, surtout quand c'est une loi des Rabbanan. Le problème ici, c'est que c'est un doute de doute qu'on fait contre Maran. Bon, je vais expliquer d'abord ce que dit le Rav Yosef. Le Rav Yosef, il dit comme ça. Il dit, on voit que dans la Halakha, il y a deux avis. L'avis du Réma, l'Ashkenazim, et l'avis des Sfaradim. Ça veut dire que d'après le Réma, si le feu a été allumé par un non-juif, par un juif, c'est suffisant. Après, plus besoin que le juif intervienne, tout ce que fait le non-juif est valable. Pour nous, ce n'est pas valable. Comment la vérité ? On ne sait pas. Dans le ciel, doute. Bon, il y a un doute. Maintenant, il y a encore un autre doute. Dans les Rishonim, je vous ai dit auparavant qu'il y a deux avis. Pourquoi est-ce qu'on a interdit de manger un plat qui est cuisiné par un non-juif ? Deux raisons. Ou bien on a peur qu'on se marie avec la fille du cuisinier, d'accord ? Ou la cuisinière elle-même, d'accord ? Ça rapproche. Ou bien on a peur qu'ils mettent une chose qui ne soit pas cachère dans le plat qu'il cuisine. Maintenant, le deuxième avis qui dit qu'on a peur qu'il mette quelque chose, c'est quand il est seul dans sa cuisine. Mais quand il est dans ma cuisine à moi, et qu'il sait très bien, le cuistot, que le propriétaire, il rentre, il sort sans cesse, il a peur. Il ne peut pas maintenant amener dans sa poche l'escalope de porc, hop, s'il la met comme ça. Ça ne marche pas. Il a peur qu'à chaque seconde, on l'attrape. Alors, Yosef va dire maintenant, il va faire un sexe, il va dire comme ça. Là, la France, on ne sait pas comment elle est. Peut-être qu'elle est comme Maran, qui dit que ce n'est pas valable que la flamme soit allumée par un non-juif. peut-être qu'elle est comme le Réma qui dit que c'est valable qu'elle soit allumée, que la flamme soit allumée par un non-juif. Donc même si tu me dis que l'halakha n'est pas comme le Réma, mais comme Maran, comme Rabbi Yosef Karo qui dit que c'est pas valable, peut-être que l'halakha elle est comme la vie qui dit que la raison pour laquelle on interdit cela, c'est de peur qu'ils mettent une chose interdite dans le plat. Et si maintenant le propriétaire et les juifs, ils rentrent et ils sortent sans cesse, alors ça n'a pas lieu d'être, on n'a pas cette crainte-là. Alors on ne sait pas, peut-être que la bonne raison, c'est pas ça, c'est de peur qu'on se marie avec la cuisinière. Et puis, que le propriétaire soit là ou pas là, ça ne change rien. Au contraire, le propriétaire il est là, il commence à devenir copain avec la cuisinière, ça peut devenir dangereux. Ou la fille du cuisinier, d'accord. On ne sait pas comment la femme, mais si on a deux doutes. Alors Wassef, il va dire comme ça, si on n'a pas le choix, ce n'est pas a priori, mais si c'est difficile, on n'a pas le choix, si on a les deux conditions qui sont remplies, les deux conditions suivantes. Un, que déjà le feu est allumé par un juif. Et que y a le non-juif cuisine dans une cuisine d'un juif dans laquelle le propriétaire rentre et sort sans cesse. Alors on a déjà deux doutes. Peut-être que la halakha elle est comme le Réma, que si ça a été allumé par un juif, c'est valable. Et même s'il me dit que ce n'est pas valable, peut-être que d'après la halakha, si le juif y rentre sans cesse, c'est valable. Ce n'est pas interdit. Vu qu'on a deux doutes, on autorise. Donc, d'après l'arbre Yosef, ce sont ces deux conditions-là qui sont remplies. Qu'un juif a allumé le feu et que c'est dans une cuisine d'un juif qui rentre et qui sort. Par exemple, dans les hôtels, dans les traiteurs, dans ta propre cuisine, tu as maintenant une femme de ménage, une cuisinière que tu as non-juive qui cuisine, mais c'est chez toi à la maison, etc. C'est toi qui mets le feu, c'est elle qui fait, et toi tu rentres, tu sors. Dans tous ces cas, d'après l'arbre Yosef, si on n'a pas le choix, ce n'est pas a priori, si on n'a pas le choix, on pourra autoriser. Rabbi Yosef Abashaoul dit que non. C'est un des grands points de dissension entre Rabbi Yosef Abashaoul et Rabbi Yosef au niveau de comment on peut trancher la halakha ou pas. Le Rabbi Yosef Abashaoul, il dit, il amène des poskim qui disent cela, qu'on peut faire un sekseka, mais pas dans tous les cas. On ne peut pas faire un sekseka quand la conclusion sera contre l'avis du Shulchan Aruch. Or là, le Rabbi Yosef, il fait un sekseka qui va contre l'avis du Shulchan Aruch. Il dit qu'on n'a pas le droit. Alors toi, tu fais maintenant un pile-poule pratique, tac, 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 et tu vas autoriser. En fin de compte, Maran a interdit. Comment tu vas contre Maran? Donc Rabbi Yosef lui dit, tant pis, je peux quand même y aller. Et le Rav Ben Yisrael Abashaoul dit que non, on ne peut pas aller ainsi. Il y a une autre coula, une autre possibilité d'autoriser, ça parle Rav Ben Yisrael Abashaoul, et là, le Rav Yosef, lui n'est pas d'accord avec. On a déjà parlé de cela assez souvent ici. L'emploi de l'électricité. Si maintenant, on a vu par exemple, pour les fils des tzitziot, il faut que le fil soit fabriqué par un juif. La matzah qu'on mange le soir de Pessah, c'est qu'on est rendu quitte de la mitzvah de matzah de Pessah, il faut qu'elle soit faite par un juif, l'échem matzat mitzvah, pour la mitzvah de manger la matzah. La construction des tefilines, la presse hydraulique, d'accord, il faut que ce soit fait pour la mitzvah de tefilines. Toutes ces mitzvahs qui nécessitent maintenant une pensée que c'est fait pour la mitzvah ou que ça nécessite que ce soit fait par un juif. Non, on nécessite que ce soit fait avec une pensée spéciale. D'accord? Est-ce que c'est valable si on le fait avec l'électricité? Oui. Est-ce que c'est valable si on le fait avec l'électricité? Oui ou non? Par exemple, les matzot qui sont faits à la machine et les matzot rondes qui sont faits à la main. Les maçons qui sont carrés sont faits à la machine, d'accord? Alors comment ils font? Il y a l'usine qui n'est pas trop loin d'ici. Le Majliar, un monsieur très religieux, il dit l'échem matzat mitzvah, maintenant je fais maintenant pour la mitzvah de matzah, il appuie sur le bouton, tac, et la machine se met en marche et commence à faire des matzot. Est-ce que la matzah qui sort, est-ce qu'on va dire qu'elle est faite maintenant pour la mitzvah, oui ou non? Bah si c'est lui le juif qui l'a fait, oui, c'est pas le juif, c'est pas valable. Le Rav Yosef Abashaoul dit c'est pas le juif qui l'a faite. C'est l'électricité qui l'a faite. Pourquoi? Il dit, ça dépend quelle est la nature du courant électrique. Il y a deux sortes de courants, le courant alternatif et le courant continu. Le courant alternatif, 50 fois toutes les secondes, ça passe de plus ou moins, ça s'arrête, c'est saccadé. Alors il dit, quand tu appuies, alors la première impulsion qui dure 1/50 de seconde, c'est toi qui l'as faite, mais tout le reste, c'est pas toi. À quoi cela ressemble-t-il? Il dit, c'est comme si maintenant il y a un courant d'eau, une rivière, on met un barrage. Maintenant, quelqu'un, il enlève le barrage. Est-ce que l'eau qui va couler maintenant, c'est lui qui l'a fait couler ou pas? On peut dire que oui, parce que grâce à lui, qu'il a enlevé le barrage maintenant, l'eau elle coule. Mais on peut dire que non, mon cher, mais toi maintenant, la première impulsion d'eau, c'est toi qui l'as fait, mais le reste maintenant, depuis une heure, ça coule, c'est pas toi. c'est la montagne, c'est la force de gravitation qui fait que l'eau descend vers le bas. Donc c'est pas toi qui as fait cela. Donc, c'est pas toi. Et d'après cela, on ne peut pas être rendu quitte avec une matzah qui est carrée, qui est faite par la machine pour le soir de Pessah.
C'est toujours un courant alternatif ?
Pardon ? Alors, les batteries, si tu as une batterie, c'est un courant continu. On a vu pour Hanouka, par exemple, qu'on peut utiliser le LED d'un iPhone pour faire la bougie de Hanouka. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est une batterie. Et si maintenant quelqu'un a une petite ampoule qui va mettre au secteur, à l'électricité du secteur, ben, c'est pas valable. Il ne fait pas la mitzvah. La première impulsion de 1/50 de seconde de lumière, c'est lui. Mais c'est pas suffisant, il faut que ça tienne pendant une demi-heure. Donc si c'est fait avec une batterie, là c'est un courant continu, c'est toi. Et là le rabbin est d'accord. Mais si c'est pas toi, c'est le courant alternatif, dans ce cas-là, t'es pas rendu quitte. Alors idem pour toutes les fois où il faut que ce soit moi qui fais l'action. Les bougies de Hanouka, les filets de tzitzit, comment on fait un tfilin, la matzah, etc. Et aussi bichoul goyim, la cuisson du goy. Le goy vient maintenant, il allume le four électrique. Alors qui a allumé le feu ? Lui ? Ou l'électricité, l'EDF, même pas l'EDF, la turbine, c'est pas lui. D'après le Ramassin Bachouroul, toute cuisson faite par un non-juif, toute cuisson électrique n'est pas faite par le non-juif. Elle est faite par l'électricité. L'électricité n'a pas un statut de non-juif, il a un statut d'électricité. Donc il n'y a pas de problème. C'est une coula. Donc si jamais on nous fait un plat maintenant, on sert un plat maintenant, et il s'avère que le cuistot n'est pas juif, je pose la question tout de suite. Dites-moi, est-ce que, vous vous souvenez, à 30 ans environ, j'étais à Paris, on m'a donné des chips, d'accord, comment on appelle ça, des chips, des chips, des chips, d'accord, parce qu'en hébreu, c'est un, pas des frites, des chips,
des chips,
des chips, voilà, des chips, des pommes de terre cuites au four. Alors j'ai demandé à la dame, excusez-moi, est-ce que, ici, je ne savais pas encore à l'époque, est-ce que l'électricité en France, c'est un courant alternatif ou continu? Pourquoi? C'est pour les gens, c'est les chips, pour les manger ou pas, mais elle va regarder comme un chips qui est fait en France, je ne pense pas que c'est un juif qui l'ait fait, d'accord? Alors maintenant, on espère, c'est pas clair, je ne sais pas peut-être si maintenant ces chips ont été faits dans une casserole qui est au gaz, et là c'est un problème. Mais si c'est fait à l'électricité, dans ce cas-là, si c'est fait à l'aide de l'EDF, l'électricité du secteur, c'est le cas, je pense pas qu'ils ont une batterie sous la casserole, d'accord, c'est fait grâce à l'EDF, donc c'est le courant du secteur qui est alternatif, bien que ce soit un non-juif qui ait fait ses chips, ils sont cachers, sinon c'est un problème. J'ai vu l'autre jour si quelqu'un mangeait des chips de l'étranger, je lui ai dit, il faut vérifier mon cher ami, parce que c'est pas clair, parce que si jamais la casserole, elle est de frites, elle est de friture, d'accord, d'huile, elle est chauffée au gaz, c'est un problème. Et c'est pas cachère pour nous.
D'accord, mais sur Paris, alors c'est pas.
Comment on fait quand on. Déjà pour suivre, d'accord. Mais quand. A priori, on suit comme tous les soirs, alors on va dire Yosef, ouais. Mais qu'on est d'accord.
Comment tu dis on suit comme tous les soirs, alors on va dire Yosef? Je suis entièrement pas d'accord avec toi, moi.
Et on suit les alors on va dire Yosef. Et qu'on est plutôt d'accord avec ce que dit le Rav.
Il n'y a pas de problème. Si tu veux faire. Tu veux être plus sévère, tu as le droit. Le problème, c'est quand tu suis un rave et tu vas être maintenant plus léger comme l'autre. Tu dis, moi, je suis toujours lui, mais là, ça m'embête de faire comme lui, je vais faire comme l'autre qui autorise. Ça, c'est un problème.
S'il est plus sévère.
Ouais, c'est plus sévère. Maintenant, c'est pas comme ça. Je pose la question au Rav Ben Sion Basso lui-même, il y a 20 ans. Je les ai là, il me pose la question. Comment faire la halakha ? Comme le Rav Ben Sion ou comme vous ou comme le Rav Yosef ? Il est comme moi, il m'a dit. Non, je dis, non, quoi d'arabe ? Qu'est-ce qu'il. Il pose la question, ils hésitent entre les deux. Il m'a dit comme ça. Il y a deux solutions. Ou ils prennent un rave et le suivent de A à Z. La même question, Rabbi Yachir, qui a dit la même chose aussi. Ou bien, si c'est une loi des Rabbanan, on peut prendre toujours la vie qui est léger. Ça fait que des Rabbanan, les coups là, on a un doute, on prend la vie qui est plus léger quand c'est des Rabbanan. Quand c'est d'Oraïta, on prend la vie sévère. Et comme ça, on est OK de tous les avis. Attends, si tu veux être sévère, tu peux. La question, c'est quand tu veux être plus léger, dans un cas d'Oraïta, là, c'est un problème.
Pour mon mieux, le béni, si c'est pas mal, moi je le mets dans l'huile. Et que bon, ça cuit déjà en dessous, est-ce que le goy peut le retourner ?
Si on considère qu'il est arrivé à un tiers de la cuisson, c'est bon. Alors je ne sais pas si maintenant un beignet non retourné, est-ce qu'on va dire qu'il est arrivé à un tiers de sa cuisson ou pas ? Une partie oui, une partie non. C'est un problème. Normalement, on ne peut pas le retourner. La partie qui est. Mais attends, un beignet d'abord, c'est en friture profonde, non ? C'est pas en friture légère comme ça.
Il faut le retourner,
d'accord. Eh ben non, j'imagine que la partie qui est en haut, elle n'est pas cuite.
Non, elle n'est pas cuite, mais...
Même pas un tiers.
Je pense que les trois quarts, ouais, ils sont bien cuits. Il y a juste la partie au-dessus, en fait, qui manque juste la couleur, quoi.
S'il manque que la couleur et c'est cuit, il y a un tiers de cuisson, ça va. Mais sinon, non, attention, hein. Faut jouer avec le feu, là.
par rapport aux baguettes, par exemple à Lyon, si on va chez Banette par exemple, le mec, celui qui allume le four, c'est un juif, on peut manger la baguette ou pas?
Oui, vu que c'est du pain, ça va. Le pain, s'il y a le feu qui est allumé par un juif, il n'y a aucun problème. S'il n'est pas allumé par un juif, si on peut avoir du pain de juif, alors c'est un problème. Si on ne peut pas en avoir, on peut prendre du pain même de non-juif total. Mais si on n'a pas le pain juif.
Vous avez eu la réponse sur Paris, alors c'est comment? C'est alternatif?
Je crois que c'est le courant alternatif, mais on n'a pas encore sorti de l'auberge. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème maintenant. Est-ce que vraiment ces chips sont faits avec un four électrique, une friture électrique, une friteuse électrique ou une friteuse à gaz? C'est pas clair.
D'accord.
C'est pas clair. Je me souviens plus.
Dans tous les restaurants, c'est
faire attention. Il faut faire attention. Ça dépend. Ça dépend.
Il faut
appeler le mâche-guillard. Dans un restaurant, on appelle le mâche-guillard. J'avais un élève ici qui a travaillé. Je vous raconte une histoire qu'on peut même citer sur Internet. J'avais ici un élève qui a travaillé 2 ans dans une des boucheries les plus réputées à Paris. Il m'a dit, beaucoup de gens venaient acheter pour que la viande, elle est rouge, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas la salaison. Il ne mettait pas la viande dans le sel. Taref, c'est interdit. C'est interdit. Maintenant, tu t'es plaint? Mais sûr, je me suis plaint. Il s'est plaint au bébé. Et ils l'ont fait taire. Ils ont dit, mon cher ami, tu parles pas, si tu n'es pas content, tu parles. Pas le responsable. Parce qu'il y a des magouilles, il y a de la magouille, il donne 1%.
Est-ce qu'on prend, nous, si on mange ça?
Hein?
Est-ce qu'on prend un truc?
Bien sûr qu'on prend quelque chose.
Mais c'est notre responsabilité ou
pas? Bien sûr, parce que tu sais, on sait personnellement qu'il faut comprendre qu'en cache-route, il n'y a pas cachère et pas cachère. Il y a différents niveaux. L'organisme de cache-route, il ne peut jamais garantir que c'est cachère. Il peut garantir qu'il fait une certaine garde. Cette garde fait en sorte qu'il y a moins de risques. Le 100%, c'est impossible. Rabbi Nachman Shmuel disait, pendant la cérémonie de Tchouva, les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour, on mange sans cache-route. Tu comptes sur personne. Tu fais ton lait à la maison, tu plantes tes radis, tu plantes tes tomates. Bon, personne n'arrive à faire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ingénierie alimentaire elle est beaucoup trop avancée. Mais idéalement, tu manges ce que tu as vu. Comment je peux savoir maintenant, c'est que nous garantissons la cache-route de ce produit. Qui peut garantir? Qui peut être 24 heures sur 24 à côté du produit? C'est oui, il tenait la garde à côté du produit pendant 24 heures, c'est bon. Mais qui fait ça? Bien sûr que non. Je te fais un cours maintenant, tu ne mangeras plus rien, mon cher. Ce que j'ai vu dans ma vie, moi, je n'ai rien vu. Hein. Moi, je suis un nul de nul, je ne connais pas. J'ai un voisin qui s'occupe des fraudes de la cache-route. Chaque semaine, ils ont un nouveau papier avec tous les gens qui ont fraudé, qui, quoi, comment, tout ça. Comment on se fait avoir? Mais sans cesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour essayer de manger cachère, on prend un organisme de cache-route qui est super, super sévère, qui fait très attention, qui a beaucoup de gardes, il met vraiment beaucoup, beaucoup de barrières. On pourra jamais, mais on limite la casse. On peut dire à Dieu, écoute, je l'ai fait au maximum. Maintenant, si c'est arrivé, c'est arrivé. Mais quand on prend une cache-route qui est light, alors pour ceux qui sont loin, c'est mieux que rien. Pourquoi est-ce qu'on autorise qu'on devrait crier contre ces cache-routes? Ah, écoute, mon cher ami, une fois sur deux, c'est bon. Mais une fois sur deux, c'est bon que... Je dis comme ça, pas une fois sur deux, peut-être je me trompe, peut-être une fois sur dix, c'est bon. Parce qu'une fois sur dix, c'est pas bon, je ne sais pas, d'accord? En tout cas, c'est léger. Et c'est normal, les gens aiment l'argent. Manger cachère, ça demande de l'argent. On magouille. Je te raconte une histoire, tu vas raconter, je vais comprendre. Ça, c'est mon Chavouda qui m'a raconté il y a 20 ans. Il m'a dit que son oncle... Il a une fabrique d'alimentation. Il va vous faire un sirop. Vous allez voir l'ingénieur alimentaire. Il va dire, voici la liste des choses qu'il faut pour que ça soit un bon sirop. OK, il va avec ça au Badatz. Il demande que ce soit un sirop cachère. Le Badatz, tout va bien, ce produit ne va pas. Vous changez, vous mettez ça à la place. Il va voir l'ingénieur, il lui dit, écoute, mon cher ami, tu mets le produit qu'ils t'ont dit, ton zéro, il sera naze. Tu veux ce que je te dis, il sera bon. Il dit, moi, je veux que ce soit comme ils disent. Écoute, il n'y a pas de problème. Tu fais comme ils disent, c'est-à-dire, la première fois, tu prends le fût du produit qu'ils ont dit, tu gardes le fût. Après, tu fais comme tout le monde, moi je dis comment faire, tu vides le fût, tu prends le produit que moi je t'ai dit, tu mets dans leur fût, du produit qu'eux ils ont, qui ont le même fût, ils ne verront rien du tout. L'ingénieur lui dit comment rouler le badatz. Heureusement que l'oncle était religieux un peu, il dit, écoute, moi je vais être honnête, et il a été, mais combien sont honnêtes? Qui est honnête? Comment est honnête? On veut vendre, on veut que ce soit bon. Ça coûte plus cher, il faut magouiller un peu, on magouille, et voilà. Et c'est terrible ce qui se passe. Donc quelqu'un qui fait attention à son âme, il fait attention à ce qu'il mange. Parce que quand on mange, comme explique le Messie Charim, tu fais navera, ok, mais quand tu manges, ça rentre dans toi, ça devient ta propre chair. Et ta propre chair, elle est construite maintenant avec quelque chose de tamé. Ça veut dire que t'as une résistance, t'as moins envie d'étudier, t'as moins envie de prier, t'as moins envie de Dieu, t'as pas d'irat shamayim. De quoi ça vient? De ce que t'as mangé. Faire attention à cela parce que c'est très très mauvais. Et on peut pas compter sur les gens. Certainement pas sur les kashrouyot qui sont rabbanout. Rabbanout, ça veut dire du rabbinat, c'est fait pour amener le maximum de gens à ne pas manger taref total. C'est bien qu'il y ait cela. Mais ceux qui veulent faire attention à eux-mêmes, qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent. Donc on mangera qu'une kashrout qui est super super bien. Sfarad, c'est-à-dire, attention, Ashkenaz aussi sont bien, mais dans les cas où les Sfaradim, par exemple, la viande, nous on met l'exemple de kashrout pour la viande des Sfaradim plus haute que pour les Ashkenazim, et Bishul Goyim aussi. Il faut faire connaître la halakha, savoir comment naviguer et pas manger des choses qui soient taref. Baruch Adonai, Roman Vamen.